Bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture, un mercredi sur deux, les semaines paires sur Radio G. Salut Pablo.
Oh là là, mais c'est un sans faute, Seb. Salut Seb.
Sans bafouiller, dis donc.
Yes, énorme.
Et on salue Seb.
Qui va arriver?
Non, il nous
vient pas.
Il
vient pas, c'est ça.
Il nous écoute, mais il sera là dans 15 jours.
Ouais, bien sûr.
Et on embrasse Anaïs, bien sûr.
Absolument.
Alors, ce soir, Pablo, on va parler de séries télé.
Ouais.
Mais on va parler aussi.
De cinéma. Et puis un petit polar, et puis peut-être d'autres petites surprises comme ça qui nous viendront.
Oh là là, voilà. Et puis surtout de la bonne
et
musique.
Beaucoup de bonne musique, exactement.
Et on va démarrer d'ailleurs parce que là on est un peu dans un climat, on va dire tropical, hein, voire subtropical. On va écouter Welcome to the Jungle.
Ah, allez, c'est parti.
The Guns N' Roses.
Dans Bande Geek Mafia, Radio G, 101.5.
Ils seront au Hellfest cette année.
Yes, deuxième week-end, les gars.
Welcome to the
Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Vous êtes bien dans Band Geek Mafia.
Sur Radio G, la radio qu'il vous faut.
Absolument.
Creature Shock Radio FM. Alors Pablo, on va parler cinéma.
Ouais.
Donc forcément.
Un petit jingle ciné. Ah bravo. Quel talent.
Je fais à la bouche.
Voilà, c'est ça. Fais maison.
Est-ce que tu veux quelque chose de plus grandiloquent ?
Non, ça nous va.
Ah bon ?
Oh là ! Ah ben ouais, remarque. On parlait des animaux fantastiques. Hein.
On rappelle que c'est le Festival de Cannes.
Yeah, c'est vrai. Alors c'est parti. Bah oui, c'est le Festival de Cannes. Tu as bien raison d'en parler parce qu'il faudra peut-être qu'on en dise quelques mots sur les sorties de films. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais vous parler d'un film qui est actuellement à l'affiche et depuis un petit mois déjà. Les Animaux Fantastiques 3, c'est-à-dire Les Secrets de Dumbledore. Donc il s'agit du troisième volet de la série Les Animaux Fantastiques et du 11e film de la franchise Du Monde des Sorciers de J.K. Rowling. Il fait suite au film Les Crimes de Grindelwald sorti en 2018. La production de ce film a été fortement affectée par la pandémie du Covid-19 qui contraint l'équipe à interrompre plusieurs fois le tournage. Le film marque également un changement d'interprète, ça c'est à révéler quand même, pour le personnage de Gellert Grindelwald, principal antagoniste de la série. L'acteur, Johnny Depp, invité.
Ah non.
Mais si, il a été invité à abandonner son rôle à la suite de son procès pour violence conjugale et donc du coup a été remplacé à compter de cet épisode par Mads Mikkelsen.
Ah, c'est bien.
Alors, qui est un excellent acteur, hein, Mads Mikkelsen, on en avait déjà parlé un peu, on le connaît. Voilà. Le film reçoit des critiques mitigées. Il est cependant considéré comme meilleur que son prédécesseur. Et les performances de Jude Law et de Mads Mikkelsen ont été saluées. Au cours des deux premières semaines de sortie, il rapporte plus de 280 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait l'un des films les plus rentables de ce début de 2022. Je vous lis le synopsis. Dans les années 1930, les sorciers vont être amenés à élire leur prochain dirigeant, le chef de la Confédération Magique Internationale. Inquiet de l'ascension rapide et du gain en popularité de Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragono. Donc, je rappelle, Norbert Dragono, c'est le spécialiste des animaux fantastiques. Et à ses amis, une mission qui les conduira à perturber les plans du mage noir, à affronter ses partisans de plus en plus nombreux et à croiser la route du Kilin. Le Kilin est une créature chinoise capable de lire dans l'âme et de choisir la personne la plus digne de gouverner. Mais conscient de l'importance des enjeux et de la guerre qui approche, Dumbledore se demande combien de temps encore il pourra demeurer en marge des événements. Encore une fois, David Yates est à la manœuvre. Je dirais qu'il rallonge la sauce sans grand talent. Il devrait penser à passer la main.
Ah oui, quand même.
Ouais, je trouve. Le film a un côté décousu et des dialogues qui sont relativement fades. Des scènes d'action sont correctes, mais manquent de peps. Alors, le site Écran Large dit même que les acteurs semblent s'ennuyer mortellement sur scène. Je cite Écran Large, ils disent carrément, c'est d'ailleurs tout le paradoxe des Animaux Fantastiques 3. Le film semble incapable de se concentrer sur le moindre arc narratif, comme un enfant hyperactif qu'il faudrait tout le temps stimuler par des nouvelles idées. Pourtant, un tel postulat supposerait que le rythme global du récit, qui s'étale sur 2h20, soit péchu et suffisamment relevé pour nous faire oublier ces incohérences. A l'inverse, le très long métrage traîne la patte avec une indécence hallucinante. Que les rares scènes d'action soient toutes des pétards mouillés est une chose, mais il faut surtout endurer le tunnel de dialogue d'un ennui abyssal. Oh la vache, ils sont durs. Donc ça, c'était écran large. Bon, c'est vrai qu'on a perdu l'intrigue des deux premiers opus, ou plutôt le fil rouge s'est effiloché. Elle reste là quand même, je vous rassure. C'est vrai que la relation amoureuse entre Grindelwald et Dumbledore est à peine évoquée, dans un dialogue assez froid, jamais montré ni sublimé. Comme s'il fallait rester dans le politiquement correct et ne pas montrer deux gays qui s'aiment à l'écran. Dommage, car les deux acteurs Jude Law et Mads Mikkelsen en étaient largement capables. Bon, ceci dit, on passe tout de même un bon moment. Les images sont merveilleuses, on retrouve la magie du Wizarding World de J.K. Rowling. Les créatures fantastiques sont tantôt drôles et attendrissantes, tantôt inquiétantes et terrifiantes, mais toujours esthétiquement réussies. L'acteur qui joue le rôle principal, Norbert Dragono, il s'appelle Eddie Redmayne, est égal à lui-même, sobre et délicat. Il faut par contre saluer tout de même la performance des deux acteurs les plus marquants, qui sont les véritables personnages principaux, Jude Law et Mads Mikkelsen. Les deux très classe, très à l'aise, qui semblent s'amuser vraiment. Le premier est mystérieux et séducteur. Le second remplace avantageusement Johnny Depp, mais moins en chaleur, moins de chaleur, moins de passion.
Moins de chaleur.
Voilà, c'est ça.
En même temps, c'est possible aussi.
C'est possible aussi, remarque. Hein. Mads Mikkelsen reste assez froid dans son rôle. L'acteur Ezra Miller, qui joue Croyance, est magnifique. Une beauté romantique, sombre et tragique. À mon avis, son talent n'est pas assez exploité. Enfin, je relèverai la place omniprésente du miroir et des effets de miroir entre personnages esthétiquement bien menés et philosophiquement efficaces. Car les personnages, comme les deux frères d'Albus Dumbledore, Croyance et Aberforth, nous apprennent plus sur le grand sorcier que lui-même, qui reste très secret au fond. Effectivement, nous en apprenons souvent plus sur nous-mêmes ou sur autrui, par la relation que nous entretenons avec les autres, par nos fréquentations, nos alter-égos, que par une simple introspection. Le visage de l'autre est souvent un miroir de notre âme. Bref, allez voir Les Secrets de Dumbledore, pour vous faire votre propre idée, votre propre avis. Vous passerez un bon moment, malgré tout. Merci de votre écoute.
Merci Pablo. Est-ce qu'on écoute la bande-annonce?
Allez, pourquoi pas, ouais, tout à fait.
C'est parti.
Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé murmurer.
Nous venons voir Albus Dumbledore.
Il se trouve que c'est mon frère.
Le monde que nous connaissons s'effondre. Grindelwald le décime avec haine. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance.
C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Un magizoologiste, son indispensable assistante. Un sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante. Et... un moldu.
Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob.
Non, tu te moques de moi, là. Toutes les chances sont de notre côté.
Finalement, Pablo, ton impression, toi, sur ce film? Parce que les critiques sont mitigées.
Hein. Les critiques s'y sont mitigées. Non, moi, je partage en partie les premières réserves, hein, que j'ai émises. C'est vrai qu'il y a cette idée qu'au fond... c'est pas un... moi je trouve que bon voilà, David Yates il est un petit peu dans sa zone de confort, je trouve qu'on va pas assez loin. Voilà, il pourrait se permettre, vu le succès de la saga, de lâcher un petit peu la bride au talent, d'aller un petit peu sur des terrains, d'explorer. Moi, je trouve qu'après, ça reste un film très efficace. Très efficace, très... voilà, et qui est quand même grandiose. C'est un beau spectacle. Voilà, on passe un bon moment.
À voir en famille.
Vrai, voilà, à voir en famille. Et c'est vrai que si vous aimez les personnages, notamment les créatures fantastiques, elles sont magnifiques. C'est vrai que voilà, on entendait quelques-unes. Il y a ce côté un petit peu... Et qui est étonnant avec ce moldu, hein, Jacob, qui est très sympathique et qui effectivement va hériter d'une... Ce que l'on ne voit pas, puisqu'on est à la radio, c'est qu'il hérite d'une baguette. Attention, il va avoir une baguette.
C'est important.
Voilà.
Pour la suite.
Mais je n'en révèle pas plus.
Non. Pas de divulgachage.
Voilà, absolument.
On ne divulgage pas.
Non.
Merci Pablo.
Ben avec grand plaisir.
Alors, on va écouter un peu de musique.
Oui.
Tu nous as proposé les Strokes.
Allez, les Strokes pour un peu. Bon, c'est un peu un groupe que j'affectionne beaucoup.
Oui, c'est vrai que tous les 15 jours, on entend les Strokes quasiment.
À peu près. Donc là, c'est tiré de l'album de New Abnormal, le dernier album qui date de 2019. Et il s'appelle Brooklyn
Bridge to Chorus.
Vous êtes bien dans Band Geek Mafia. Attention, ça va mettre la pêche. Radio G 101.5.
Another song, another day, another star.
c'était bien The Strokes, Brooklyn Bridge to
Chorus.
Remember Sally when I promised to kill you last?
That's what made you, you did.
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Tous les 15 jours.
Radio G, 101.5 FM.
Voilà, on vous a ressorti un vieux générique qu'on aime bien, pour vous dire que dans 15 jours, on fera sûrement une nouvelle émission spéciale Hellfest.
Voilà. Yes.
Alors tout de suite, je vais vous parler d'une série dans laquelle on entend cette chanson d'Harry Nilsson. Si vous avez vu la série, vous avez reconnu Russian Doll.
Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes.
Alors Russian Doll, c'est une série Netflix. C'est une série pour l'instant qui comporte deux saisons. Il y en aura peut-être une troisième. Alors Russian Doll, c'est l'histoire de Nadia qui revit toujours la même soirée. C'est son soir, c'est son anniversaire, tout le monde est là pour faire la fête. Et ça se passe mal, elle meurt. Voilà. Sauf que elle ressuscite.
D'accord.
Et elle ressuscite. Toujours le même soir, c'est son anniversaire. Et là elle meurt. Et puis elle ressuscite.
Oh la vache.
Donc c'est un jour sans fin. Vous avez vu le film, hein, vous avez vu le film avec l'acteur qu'on adore, Bill Murray.
Bill Murray,
bien sûr. Alors on va, au début on se dit bon, bof, finalement on a déjà vu Un jour sans fin, quel est l'intérêt de cette série? Mais en fait c'est très intéressant parce que d'abord c'est très bien fait, je vais vous parler de l'actrice qui est géniale, et puis ça va vite déraper en fait vers une autre boucle temporelle puisqu'elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule à vivre,
sur le retour,
c'est ça. C'est l'éternel retour. C'est très philosophique.
Ouais.
Alors ça c'est la saison 1. Et puis dans la saison 2, il y a une autre histoire. Alors c'est encore un problème temporel, mais là c'est plutôt un voyage dans le passé. Voilà, je n'en dévoile pas plus.
Toujours avec la même actrice. Elle a pas de bol, hein.
Ah non, elle a pas de bol. Alors, mais elle est géniale, je vais vous en parler. C'est Natasha Lyonne, je pense que ça se prononce comme ça. Alors Russian Doll, vraiment ça met en valeur cette actrice que vous avez peut-être vue dans Orange is the New Black. Voilà.
D'accord.
Alors je vous en parle parce qu'on la reconnaît facilement, elle a une tignasse rousse. Mmh. Elle a une démarche courbée, comme si un peu elle cherchait des mégots sur le trottoir. Mmh. Alors, je vous dis ça parce qu'elle passe son temps dans la série à fumer des clopes. Voilà. Donc Natasha Lyonne, l'actrice là, elle vient hanter notre salon pour la saison 2 de Russian Doll, donc Poupée Russe. Pourquoi Poupée Russe? À cause de ses enchaînements et de ses, de ses couches temporelles qui viennent s'ajouter les unes sur les autres,
en fait.
Et s'imbriquer les unes dans les autres aussi.
C'est ça.
Puisqu'ils sont plusieurs à vivre cet événement, ce phénomène. D'accord. Donc le temps nous joue des tours. Problème philosophique sur le temps.
Clairement.
Contrairement à la première saison, donc, où Nadia, le personnage, revivait sans cesse la même journée, mm-hmm. comme je le disais. Là, la même soirée, oui, et un peu plus même. Mm-hmm. Et la même nuit aussi, c'est important.
Ah oui.
Cette fois-ci, il y a une rame de métro dans la saison 2 qui la ramène 40 ans en arrière, hein, ce que je vous disais, donc dans le passé, sauf que elle est dans le corps de sa mère.
Oula!
Donc c'est,
ah oui, ça complique quelque chose là.
C'est une vraie histoire de poupée russe, vous comprenez?
Excellent.
Et qui va lui permettre ou pas, je vous dévoile pas, de réparer les blessures familiales.
Ah ben oui.
Alors en fait, qu'elle soit de chair ou de fiction, c'est-à-dire Natasha, l'actrice, ou Nadia, le personnage, ce sont des rescapés. Pour imaginer ce voyage dans le temps, elle a coécrit avec Amy Poehler, et produit d'ailleurs, hein, comment dire, un petit peu son histoire personnelle, hein, parce que, par exemple, sa responsabilité des descendants de la Shoah, parce que ça parle de ça, hein, de l'Holocauste. Ça parle aussi des conséquences de son addiction. Ça parle aussi de New York, beaucoup, de la ville de New York et de ses côtés sombres. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce que l'actrice Natasha Lyonne, elle nous dit, du côté de mon père, je viens de Brooklyn.
D'accord.
Et du côté de ma mère, je viens d'Auschwitz.
Ah oui.
Voilà. Elle explique ça. Alors, pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle est éduquée dans une tradition juive orthodoxe, hein, et commence sa carrière à l'âge de 6 ans dans la publicité. Et puis, elle est exclue de l'école religieuse parce qu'elle a vendu de la drogue. Ah. Voilà, donc elle se forge sa propre culture à l'aide de livres, de films, de rencontres. C'est une autodidacte, en fait. Hein. Mm-hmm. Et puis, elle est vite remarquée, et à 16 ans, elle joue dans un film de Woody Allen. Tout le monde dit I Love You, aux côtés de Drew Barrymore et de Natalie Portman.
Quand même.
Et puis, 3 ans plus tard, elle est au casting d'une comédie culte hein, pour le public LGBT. C'est But I'm a Cheerleader de Jamie Babbitt. Parce qu'elle y interprète une bimbo très croyante qui tente de vaincre son lesbianisme lors d'une thérapie de conversion.
Voilà. D'accord.
Et les années 2000 aussi, on la voit dans des comédies populaires comme American Pie ou Scary Movie 2.
Ouais, effectivement.
Mais ça, c'est côté court. Hein. Par contre, dans sa vie, c'est plutôt la tragédie. Hein. En 2005, par exemple, elle est toxicomane, elle est rongée par une hépatite C, elle frôle la mort. Ouais. Donc après une traversée du désert, hein, elle arrive dans la série Orange is the New Black qui lui offre une nouvelle chance. Elle joue le personnage de Nikki Nichols, qui est une toxico mais ultra intello. Et Natasha Lyonne trouve à se réconcilier avec elle-même. Et donc Nikki et Natasha, c'est un peu la même histoire. C'est la voix éraillée, c'est la relation compliquée au judaïsme, c'est la même fidélité aux amitiés féminines. Et toutes deux ont été opérées à cœur ouvert aussi. Et donc pour ce rôle, elle sera nommée même pour un Emmy Award. Voilà, prélude donc à ces poupées russes hein, qui sont aujourd'hui sur Netflix. Ouais. Donc aujourd'hui, l'actrice, elle vit à New York. Donc c'est pour ça que la série se passe à New York. Elle fume cigarette sur cigarette, comme son personnage de Nadia. Voilà. Et honnêtement, c'est une autodidacte qui sait se faire remarquer. Hein, et je vous conseille de regarder cette série Russian Doll. Donc les 2 saisons sont disponibles sur Netflix.
Excellent.
Elle est fêlée comme une lionne.
Ouais. Bien joué. Voilà. Merci beaucoup, Seb.
Un petit jingle ?
Allez.
Je suis retombé sur un nid de vieux jingles. Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis
mais
à
non.
19h
mais non,
sur Radio G. Faut qu'on les refasse.
C'est clair.
Radio G, 101.5.
C'était un morceau de batterie de qui là tu...
Ministry.
Ah, c'est Ministry. Hein,
alors là, d'accord. Pablo, moi, si tu veux.
Non, mais c'est pour ça, je savais que j'aurais la réponse. Et puis, donc, effectivement, hein, on reste dans l'annonce hein, de.
De.
La semaine prochaine.
Non, dans 15 jours.
Dans 15 jours, pardon. Dans 15 jours, c'est bien ça. On vous fait une émission spéciale Hellfest, deuxième week-end.
Ah oui, deuxième week-end, parce qu'on a déjà fait une émission premier week-end qui est disponible sur le site de Radio G.
Tout à fait.
radio-g.fr.
Ouais.
Je t'ai mis Ministry du coup en fond sonore. Non, on va couper, c'est ça?
Pas de souci. Mais du coup, on va commencer. Alors voilà, moi je vais vous parler d'une autre série. Une série. Alors cette fois, on va passer dans l'histoire, on va passer dans la fiction, dans le roman, dans autre chose un petit peu, même si on était déjà dans la science-fiction là, et en même temps, voilà, réalité science-fiction. Je vais vous parler de Black Sails. Alors Black Sails, c'est une série télévisée américaine en 4 saisons et 38 épisodes, hein, qui font 49, entre 49 et 65 minutes chacun. Elle est créée par Jonathan E. Stenberg et Robert Levin. Elle est diffusée entre 2014 et 2017 sur la chaîne Starz. En France, la série est diffusée sur la chaîne OCS Max et elle est disponible actuellement encore en ligne sur RTL TV Play. Voilà, vous avez tout. Je vous lis le synopsis. La série relate les péripéties du capitaine Flint et de sa bande de pirates durant l'âge d'or de la piraterie. 20 ans avant les événements du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Flint rencontre plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant réellement existé, tels Jack Rackham, Anne Bonny, Charles Vane et Barbe Noire dans la saison 3. L'intrigue se concentre sur la chasse du galion espagnol Urca de Lima, qui contient un trésor inestimable, par les pirates basés sur l'île de New Providence, actuellement aux Bahamas, dans les Caraïbes, dans la ville de Nassau. Pendant la période que l'on appelle l'âge d'or de la piraterie, entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, on est exactement en 1715, le capitaine Flint rencontre un jeune mousse, John Silver, qui l'emmène avec lui, bon gré mal gré, car ce dernier détient une partie de la carte où figurent les coordonnées du galion espagnol Urca de Lima, dans laquelle, je rappelle, il y a un trésor fabuleux. Dans les Caraïbes, les nombreux pirates menacent les transports maritimes et les dangers sont nombreux. Les autorités anglaises déclarent les pirates comme ennemis de la couronne, ennemis de l'humanité. Désormais, les pirates se battent contre le monde entier et vont donc devoir s'allier. On pouvait être sceptique quant à la réussite d'une telle série, tant les clichés sur la piraterie sont florès ou font florès. Il y a certes de l'action, du muscle, du sang et du sexe, mais surprise, le résultat ne manque pas de malice, ni de charme et d'intelligence. Jonathan Eisenberg respecte les règles du genre, ouvre son histoire sur une bataille navale, peuple son casting choral de gueules cabossées et de jolis rebelles. Mais il parvient à leur donner vie et dessine des personnalités fortes. Plus que la baston et le sexe, ce qui importe ici le plus, c'est en effet les tensions entre les personnages, tensions personnelles et tensions politiques. Le monde des pirates repose en effet sur une structure vaguement démocratique, où le plus fort est celui qui sait mener les hommes et calmer leur appétit de sang, d'or et de femmes. Ainsi, Black Sails fait peser une épée de Damoclès sur la tête de son héros, le capitaine Flint, où chaque capitaine contesté est donc menacé de mort. Au milieu de ces enjeux dramatiques, la série n'oublie pas, certainement pas, de nous amuser et de multiplier les scènes divertissantes, les aventures romantiques ou romanesques, surtout grâce à John Silver, malin, séducteur et bondissant. La série joue ainsi largement la chasse au trésor et les combats épiques, sans tomber dans le tout spectaculaire ou le fantastique façon Pirates des Caraïbes. Elle entend d'ailleurs s'appuyer sur un fond véridique sur le plan historique et glisser discrètement une réflexion sur l'indépendance et la liberté face à l'autorité menaçante. Donc, on peut largement y trouver une réflexion philosophique. Black Sails n'a pas la complexité et la profondeur d'un Breaking Bad, certes. C'est avant tout un divertissement, mais un divertissement solide qui prend le temps de redessiner les héros de Stevenson et de les installer dans un univers assez large pour qu'une histoire riche s'y installe. L'intrigue est éminemment politique et ses ressorts sont psychologiques, puisqu'on a une véritable galerie de portraits de ces fameux pirates. Le shakespearien Captain Flint, le rusé et pétillant John Silver, le redoutable et mélancolique Charles Vane, ou encore le rusé et torturé Jack Rackham. Mais chez les pirates, il n'y a pas que des hommes. Les femmes ne sont pas en reste dans cette société violente, mais régie par des règles strictes. Et pour survivre, trois alternatives s'offrent à elles. Ou se comporter comme un homme, à l'image de la redoutable Anne Bonny, compagne de Rackham, jouée de manière magistrale par Clara Paget. Soit on use de ses charmes, comme Max, Jessica Parker Kennedy, une prostituée rusée et ambitieuse, ou bien encore, on tente de s'imposer, comme le fait Eleanor Guthrie, fille du plus riche pourvoyeur du marché noir des Bahamas. C'est elle qui régit toutes les opérations de piraterie à Nassau, et la tâche n'est pas facile quand il faut en permanence tenir tête au forban. C'est la Britannique Anna New qui incarne cette femme à la fois forte et fragile, dont l'ambition peut causer la perte ou la gloire. À l'arrivée, Black Sails est une série passionnante, réalisée avec un très grand soin et qui offre également quelques combats au nombre de trois, parfaitement maîtrisés, mais à l'échelle de la télévision. Le dernier notamment nous permet de découvrir la puissance de feu d'un Manowar, une machine de guerre navale, hein. Une scène extraordinaire au cours de laquelle on ne peut s'empêcher de plaindre les malheureux qui encaissent les bordées de dizaines de canons et ces redoutables navires de guerre. Donc Black Sails est comme un bateau. Les deux premiers épisodes installent le décor et les personnages avec une certaine force d'inertie. Puis le vent gonfle les voiles et le navire prend de la vitesse et vous embarque pour le meilleur et pour le pire. Merci de votre écoute.
Merci Pablo.
Et ben voilà, chronique. Donc chronique de Black Sails. Je vous recommande vraiment cette série si vous aimez les pirates, si vous aimez cet univers.
Il faut regarder. On fait une pause musicale, on écoute The Pretenders, I Go To Sleep, parce que c'est aussi une musique qu'on entend dans Russian Doll, la série.
Ouais, vous allez voir, c'est très sympa. Ouais, ça, dans Band Geek Mafia sur Radio G101.
C'est un classique, ça,
clairement.
The Pretenders avec I Go To Sleep, la version originale de cette magnifique chanson. Voilà. Band Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G. Les semaines perdent.
La radio qui fait le point. 101.5 FM.
Et alors là, ce petit rip, Seb.
Attends, c'est pas fini.
101.5.
5.
J'ai dit quoi? 101.5.
Voilà, il faut attendre la fin, Pablo.
Mais oui, pardon.
Oh là là,
en plus, c'était Anaïs.
Mais oui.
Mais ouais.
Ah, ça, c'est les Red Hot Chili Peppers. Quand ils faisaient de la bonne musique.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, c'était il y a longtemps.
On est d'accord.
Alors, un petit polar, La Chasse, Pablo.
Alors, La Chasse de Bernard Minier. Alors, quoi vous dire qu'on, alors, tout de suite, Seb vient de vous mettre...
Gustave Malheur.
Alors, pourquoi Gustave Malheur, vous me diriez? Parce qu'en fait, le personnage principal, depuis Glacé, ce roman qui est sorti en 2011 de Bernard Minier, il s'appelle Martin Servaz et c'est un mélomane qui adore Gustave Malheur. Alors Bernard Minier a fait un chemin, il a fait son chemin, ou a fait un sacré chemin depuis son premier polar à succès qui a été Glacé, sorti en 2011 comme je disais. Et je le signale d'ailleurs pour les auditeurs, qui a été porté à l'écran sous forme de série, la série Glacé, disponible actuellement sur Netflix depuis 2017. Hein. Il a fait du chemin, tout comme son personnage emblématique Martin Servaz, commandant de police judiciaire à Toulouse. Là, je vous parle de son avant-dernier, un thriller nommé La Chasse. Une citation. « Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. » Fin de citation. Je vous lis le résumé sur la quatrième de couverture. « Une nuit de pleine lune en Ariège. L'homme en voiture qui rentre chez lui n'a pas le temps d'éviter un cerf venant de surgir des bois. Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. La terrible collision n'est pourtant pas le pire des chocs. La forme qui gît sur le bitume n'est pas un animal, mais un jeune homme nu, portant une tête de cerf attachée par une fermeture éclair sur la nuque. Appelé sur les lieux de l'étrange accident, le commandant Servaz est vite convaincu que la victime fuyait quelque chose ou quelqu'un, comme une bête traquée. Mais Martin Servaz ne peut imaginer la véritable nature de cette chasse. Il ne peut éviter de comprendre la véritable nature de cette chasse, pas plus qu'il ne peut deviner les contours des sentiers de la peur sur lesquels son enquête va s'engager. Dans ce thriller implacable, au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre époque. Manipulation, violence, règlement de compte. Un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers de la peur. Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau. Nous retrouvons tout le talent de Bernard Minier dans ce roman. Il se situe au cœur de l'actualité de la crise sanitaire, sur fond de pandémie et de couvre-feu, de quartiers de banlieue qui s'enflamment. On retrouve aussi son analyse serrée de la société française qui voit des services publics démantelés et fragilisés, des fonctionnaires et hospitaliers épuisés par des années de restrictions budgétaires et de management hors sol. Mais on retrouve surtout son analyse psychologique de ses personnages principaux. Martin Servaz, commandant brillant mais frondeur, dont l'éthique implacable lui interdit de jouer certains jeux politiques et parfois d'accepter des compromissions faciles. Grand amateur de musique classique, notamment de Gustave Mahler. 40 ans, divorcé, solitaire, un brin misanthrope, père d'une ado rebelle. Il est perfectionniste, il est habité par un sens de la mission obsessionnel, jusqu'à parfois au côté malsain. Il est confronté à une société de plus en plus violente et crépusculaire, à ses propres démons et à un mal de plus en plus intimement lié à notre vie quotidienne. Plus jeune, il voulait devenir écrivain. Il est devenu flic pour pouvoir rouvrir le dossier de la mort de sa mère après le suicide de son père. Il y a du lourd, hein ? Mais il ne voit pas la vie et le monde à la façon d'un flic, mais plutôt comme un poète, un philosophe et un survivant. Je parlerai d'un deuxième personnage qui s'appelle Vincent Espérandieu, un de ses acolytes, 30 ans, principal adjoint et ami de Servaz. Bien que 10 ans seulement les séparent, Vincent appartient à la génération suivante, celle du multimédia et de la cyberculture, à l'image de l'image et du son. C'est un geek, lecteur de manga et de BD, fan de rock indie, fan de Band Geek Mafia. Il est marié à la troublante Charlène Espérandieu, vers laquelle Servaz sent une attirance malgré lui. Il est à la fois parfaitement complémentaire et l'exact opposé de son patron, à qui il voue une admiration non dénuée de sens critique et d'humour. Et enfin, je citerai Samira Chung, une autre personnage emblématique, nouvelle recrue de la brigade, la franco-sino-marocaine, oulala, chinoise par son père, franco-marocaine par sa mère, est excentrique, impulsive et intelligente, et surtout anticonformiste. Comme Vincent, elle incarne une nouvelle génération d'enquêteurs, dotée d'un physique atypique, un visage extraordinairement laid sur un corps parfait. Elle a un penchant pour les arrangements vestimentaires les plus improbables et un tempérament volcanique. Pour terminer, je vous propose un extrait de l'interview de Bernard Minier, disponible sur son site officiel, donné il y a un an. Il dit, j'ai envie de parler de l'époque, de la société dans laquelle on vit, et surtout de ses dérives, des grands périls qui la menacent, mais d'une manière aussi palpitante et addictive que possible. Ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes à un an d'une échéance électorale et que la société n'a jamais été aussi divisée, déchirée, violente. On est entré dans une culture de l'affrontement systématique. Des franges de plus en plus importantes de la population ne croient plus en rien, n'ont plus de repères. Elles sombrent dans le complotisme, la haine de l'autre, le dégagisme. Ici, donc, voilà, fin de citation. Bref, ici, je vous signale La Chasse de Bernard Minier aux éditions XO ou Pocket. Je vous souhaite une très bonne lecture, mes bandes geeks.
Merci Pablo. Ouais, alors moi, c'est La Chasse, ça me fait penser à ça. C'est un morceau de Sepultura, yo, qui est même une reprise de New Model Army d'ailleurs.
Exact.
Et ça fait le petit lien avec Dans 15 jours.
Trop bien.
Le Hellfest.
Le Hellfest.
Enfin, c'est pas le Hellfest dans 15 jours.
Non.
C'est l'émission spéciale Hellfest numéro 2.
Numéro 2 dans Bandit Mafia.
On écoute un petit extrait de The Hunt. Avec The Hunt, La Chasse.
La Chasse, donc.
Le Bande Geek Mafia. C'est plus qui sera donc au Hellfest au mois de juin 2022.
Premier week-end.
Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
101.5 FM.
Stupéflip, hein, Stupéflip qui vient de sortir un nouveau titre. D'ailleurs, j'espère que tiens, on va pouvoir le découvrir juste après The Liminianas. Gaz 2000.
Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une voix bien profonde. Affaîtrez-vous, vous en verrez. Trois gousses d'ail en offrande. Une cuillère en bois est nécessaire pour ne rien rayer du fond de la poêle. À saisir lentement, longanisme. Les retirer sans trop tarder. Quatre verres de semoule et de fer doré. Dans un verre d'eau, les séparer. Deux heures seront nécessaires pour qu'apparaissent les boulettes. Continuez de remuer.
Et c'était une recette.
Et alors, si j'osais, je dédicacerais ce morceau à Romain. Alors, une petite grande nouveauté. Ouais. On est quand même assez fan de Stupéflip. On avait fait même une émission spéciale hein, dans cette émission sur cette radio. Stupéflip, c'est un groupe de rap français qui a fait beaucoup de titres très connus et qui vient de sortir un nouveau titre. On le découvre tout de suite. C'est Dans ton baladeur.
Vous avez trois nouveaux messages.
Mon pote. Niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Que des balles dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère. Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Que des balles dans ton baladeur.
Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, veulent les voir dans la cuisine. Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés. Y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent
j'étais trop gentil, maintenant fini.
Mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Que des balles dans ton baladeur, 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 baladeur.
Forever. C'était Stupéflip dans ton baladeur. Bon Pablo, on arrive déjà à la fin de cette émission.
Ouais,
merci beaucoup.
C'est bientôt, merci à toi aussi.
On se retrouve dans 15 jours pour une spéciale Hellfest.
Mais ouais, ça va être sympa.
restez à l'écoute de Radio G.
101.5.
Dans deux semaines, du hard rock et du métal.
Yes.
Et Seb sera là.
Et Seb sera là.
Bonne nouvelle. Allez, bonne soirée, salut.
Ouais, ciao, ciao les auditeurs et les auditrices.
After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
FM.